VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir et bienvenue à l'édition de ce mercredi 26 août 2015. À la une ce soir.
Deux membres présumés de Boko Haram se sont fait sauter au Tchad. Seuls les kamikazes sont morts.
République démocratique du Congo, l'ONU va cesser de nourrir près de 7000 ex-rebelles congolais et étrangers.
Nous partirons au Burkina Faso où l'inéligibilité des partisans de Blaise Compaoré suscite bien des réactions.
Il aurait été mieux de laisser tout le monde aller vers les électeurs et permettre aux électeurs de faire leur choix.
Fusillade dans l'est des États-Unis, une reporter et un caméraman tués en direct.
Économie, les places financières toujours en dents de scie, mais quel sera l'impact des problèmes de la Chine sur le continent africain ?
Il faut dire que l'Afrique voit ça d'un œil un peu lointain et un peu plus serein pour différentes raisons.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Ouverture aujourd'hui à N'Djamena du procès d'une dizaine de militants présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram, arrêté à la suite du double attentat suicide du 15 juin dernier et qui avait fait 38 morts, dont 3 kamikazes et 101 blessés dans la capitale tchadienne. Ils sont poursuivis d'associations de malfaiteurs, assassinats, destruction volontaire à l'aide de substances explosives, entre autres. L'audience inaugurale s'est poursuivie à 8 clos. Pour des précisions sur les suspects, Timothée Donangmaï a joint N'Djamena Daniel Dezoumbé Passalé, président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières.
Il y a des étrangers mélangés aux Tchadiens parce qu'on a dit à plusieurs occasions que certains Tchadiens ont importé Boko Haram. Parce qu'on était presque convaincus que sans que certains Tchadiens soient impliqués, Boko Haram n'allait pas pouvoir faire des exactions, faire des explosions au cas.
Parmi les suspects, le leader présumé du groupe, un certain Mahamat Mustafa, qu'a-t-il dit à la barre ?
Ce qui est grave et surprenant de la déclaration de ces gens, de façon unanime, ils disent qu'eux, ils sont là en train d'être jugés pour leur activité terroriste, mais si par hasard ils sont acquittés, ils vont repartir du côté de Boko Haram pour reprendre leur activité. C'était un peu surprenant qu'un être humain puisse s'engager pour dire que je vais faire mourir d'autres personnes.
Daniel Dezoumbé Passalé, président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières, joint N'Djamena.
Deux membres présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram se sont fait sauter alors qu'ils tentaient d'échapper à l'armée tchadienne qui les poursuivait. Hormis les djihadistes, personne n'a été tué, rassure une source militaire citée par l'AFP. L'incident s'est produit hier soir sur l'île de Kaega Ngouboua du lac Tchad.
Une attaque de Boko Haram a aussi été signalée dans le nord-est du Nigeria. Deux kamikazes, un homme et une femme, à bord d'un rickshaw, ont tué un soldat à un poste de contrôle à la périphérie de Maiduguri, capitale de l'état de Borno. Ils ont déclenché les explosifs qu'ils transportaient alors qu'un soldat tentait de les arrêter.
La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a annoncé qu'elle cesserait en septembre de nourrir près de 7000 ex-rebelles congolais et étrangers. L'ONU dit manquer de fonds et que c'est au gouvernement de Kinshasa de prendre le relais. Plus d'explications avec Michel Joseph.
6 800, c'est le nombre de combattants que la MONUSCO nourrit, soit 2 millions de dollars par mois. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a le mérite d'être clair. L'hémorragie doit cesser. Son bureau est en train de négocier avec le gouvernement de Kinshasa pour arrêter les livraisons à partir du 15 septembre dans une partie des camps. Les autres camps suivront le 30 septembre. Il faut savoir que les ex-rebelles comptent également des femmes et des enfants. La MONUSCO gère un programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation des rebelles étrangers. La gestion des camps d'ex-combattants, congolais ou non, revient à la RDC et la MONUSCO apporte une aide alimentaire et logistique. La MONUSCO, une des plus grandes missions onusiennes au monde, avec quelque 20 000 hommes, est dotée d'un budget annuel de 1,4 milliard de dollars, n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir les ex-combattants.
Le président sud-soudanais Salva Kiir a finalement signé aujourd'hui l'accord de paix visant à mettre fin à 20 mois d'une terrible guerre civile au Soudan du Sud. Un document déjà ratifié le 17 août par les rebelles. Claire Morin-Gibourg.
Après plus de 18 mois de pourparlers longtemps stériles, le président Salva Kiir a finalement signé l'accord de paix. Il a néanmoins émis de sérieuses réserves, disant rejeter des dispositions de cet accord qu'il qualifie de néfastes, dont celles prévoyant la démilitarisation de Djouba ou la large représentation des rebelles dans le cadre du partage du pouvoir local dans l'état pétrolier du Haut-Nil. Alors que les rebelles avaient signé l'accord le 17 août dernier, ces réserves de la présidence tempèrent les espoirs d'un retour de la paix. Le document prévoit notamment un mécanisme de partage du pouvoir durant une période transitoire de 30 mois, au cours de laquelle un poste de premier vice-président sera attribué aux rebelles. Il est probable que ce poste revienne à Riek Machar, que Salva Kiir avait limogé de ce même poste de vice-président 6 mois avant que n'éclate la guerre civile.
Au Burundi, premier discours du président Pierre Nkurunziza dans le cadre de son nouveau mandat. En 13 minutes, il est revenu sur les grands axes de son quinquennat, soulignant que la paix et la sécurité restent sa priorité. Reportage Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Le président burundais est revenu comme le jour de sa prestation de serment il y a 6 jours sur le combat que les forces de l'ordre et la justice vont mener contre ceux qui créent l'insécurité au Burundi. Il a précisé que cette tâche sera terminée en 2 mois. Il a rappelé que le programme de désarmement de la population va continuer ainsi. Dans cette optique de la paix et de la sécurité pour tous, le président Nkurunziza a indiqué qu'un service civique obligatoire sera mis sur pied pour les élèves du secondaire, des étudiants, sans donner plus de précision. En ce qui concerne les travaux de développement, le président burundais a réitéré le vœu de construire 5 barrages hydroélectriques sur les fleuves Murembwe, Manda, Kaburantwa et Djidji, comme il avait promis au moment de sa prestation de serment en 2005. Pierre Nkurunziza n'a pas oublié de mentionner la construction du chemin de fer qui partira de Gitega au centre du pays, en passant par Musongati à l'est du pays, où se trouvent les minerais de nickel jusqu'à Kigoma en Tanzanie. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, nouvelle attaque dans le Sinaï égyptien. Des hommes armés circulant à moto ont ouvert le feu sur 2 policiers à Al-Harich, chef-lieu de la province du Nord-Sinaï. Les victimes sont mortes de leurs blessures. Une attaque revendiquée par la branche locale de l'organisation État islamique, affirme le ministère de l'Intérieur.
Ici aux États-Unis, la chasse à l'homme a pris fin pour un tireur qui a ouvert le feu sur une équipe d'une station de télévision faisant 2 morts. Le tireur présumé Vester Flanagan, alias Bryce Williams, est un ancien employé de la station. Il s'est tiré une balle quand la police l'a confronté non loin de Washington DC. Auparavant, les médias avaient annoncé sa mort, mais Flanagan a survécu et est hospitalisé dans une condition très critique. Les 2 morts, Alison Parker, une reporter âgée de 24 ans, et le photographe Adam Ward, 27 ans, interviewaient en direct un entrepreneur quand le suspect s'est mis à tirer. La femme d'affaires a été soignée pour blessure. L'attaque s'est produite ce mercredi matin dans le sud-ouest de la Virginie, à environ 375 km de la capitale fédérale.
Crise des migrants en Europe, ferme réaction de l'Allemagne. Le pays ne fera preuve d'aucune tolérance pour les abjectes violences xénophobes. Déclaration ce mercredi de la chancelière Angela Merkel. Les détails avec Bagassi Koura.
Angela Merkel a qualifié à nouveau de honteuse et d'abjecte les violences qui ont opposé extrémistes et policiers dans la petite ville paisible de Heidenau durant le week-end. Selon l'AFP, avant, pendant et après sa brève allocution, la chancelière a été huée par des sympathisants d'extrême droite scandant « Traîtresse et nous sommes la meute ». Au cours de sa visite du centre de réfugiés à l'abri des micros et caméras, Mme Merkel devait parler avec des résidents, personnels et représentants des forces de l'ordre. L'Allemagne attend 800 000 demandes d'asile en 2015, soit 4 fois plus que l'année précédente. Si 60% des Allemands jugent que le pays a les moyens de les accueillir, les coups d'éclat en hausse de l'extrême droite ont choqué l'opinion. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a lui invité à Paris les pays en Europe et ailleurs à faire preuve de compassion et à faire beaucoup plus pour venir à bout de la crise des migrants.
En Syrie, le président Bachar al-Assad a déclaré qu'aucun observateur international ne serait admis dans le pays lors des prochaines élections. M. Assad s'est plaint de l'intervention des étrangers dans les affaires intérieures de la Syrie. Il a fait cette déclaration durant un entretien télévisé au palais présidentiel à Damas. Le conflit ne prendra fin, a-t-il ajouté, que lorsque les pays étrangers cesseront leurs efforts visant à renverser son gouvernement.
En Afghanistan, on connaît maintenant l'identité des deux soldats tués ce matin dans la province d'Helmand, dans le nord-est du pays. Le porte-parole du Pentagone, le capitaine Jeff Davis, a dit qu'ils sont américains. Un communiqué de la mission de l'OTAN en Afghanistan avait annoncé la mort des deux soldats de l'OTAN sans préciser leur nationalité. La coalition n'a pas précisé si les assaillants étaient des soldats afghans ayant retourné leurs armes contre l'OTAN ou des insurgés ayant infiltré l'armée afghane pour tuer des soldats étrangers au cours d'une attaque suicide.
Et pour préciser, l'attentat s'est produit ce matin dans la province d'Helmand, dans le sud-ouest de l'Afghanistan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Eric Manirakiza.
Difficultés du secteur manufacturier et agricole en Afrique du Sud. Ce mardi, le pays de Mandela a enregistré un recul de 1,3% de son PIB dû à la chute des cours des matières premières et le ralentissement en Chine, son premier partenaire économique. Les exportations de fer ont par exemple chuté de 36,9% en mai dernier. La panique ravive le spectre d'une récession dans l'économie la plus industrialisée du continent. Le choc est arrivé bien plus vite que ne le pensait, reconnaît l'économiste Peter Montalto. Ceci constitue un défi majeur pour que le pays retrouve le chemin de la croissance, estime-t-il. Les eaux minérales d'Ulmes, une filiale du groupe familial Olmarcom, prend le contrôle de la société béninoise Eau Technologies Environnement et TIE, spécialisée dans la production d'eau minérale. Le quotidien Les Échos rapporte que la filiale a acheté 55% des actions. Depuis quelque temps, le groupe Olmarcom a multiplié ses investissements en Afrique. Il est notamment présent en Afrique subsaharienne dans des projets immobiliers. Enfin, au Cameroun, le Trésor public a procédé aujourd'hui à l'émission par voie d'adjudication de bons du Trésor, assimilables d'un montant de 5 milliards de francs CFA sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC, a dit une source officielle. Sur toute l'année en cours, l'État camerounais compte émettre un total de 320 milliards de francs CFA de titres publics, constitués pour 120 milliards de francs CFA de BTA, 100 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor assimilées OTA et 150 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor OT destinées à financer des projets structurants.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric.
Les sports avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir à Chiroubin, bonsoir à tous.
Afro Basket 2015 en Tunisie.
Oui, suite donc des 16e de finale qui ont démarré depuis hier, grosse victoire pour le Sénégal qui a battu l'Ouganda 79 à 48. Et Chiroubin, faisons tout de suite le point avec Amdine Sy.
Oui, aujourd'hui on a vu une équipe du Sénégal extraordinaire qui a survolé cette rencontre face à l'Ouganda, qu'il faut le reconnaître, est un néophyte de cette compétition parce que les Ouandais participent pour la première fois à une compétition de ce niveau. Mais il faut dire que le Sénégal s'est imposé brillamment, 79 à 48, soit 31 points d'écart. Comme les matchs précédents, les quatre joueurs cadres de l'équipe nationale du Sénégal ont été à la hauteur. Je veux parler de Gourgui Sidien, qui est le pivot de cette équipe et actuellement meilleur joueur de cette 28e édition de l'Afrobasket. Aujourd'hui également, il a tiré son épingle de jeu. 23 points à son actif. Le meilleur scoreur de ce tournoi a été à la hauteur cet après-midi également. Il a été bien épaulé par Antoine Mendy qui avait offert la victoire au Sénégal face à l'Angola, a remis ça en marquant 22 points.
Voilà, c'était donc Amdine Sy. Il faut signaler que le Cap-Vert va affronter le Gabon. Le Nigeria joue contre le Mozambique. Et enfin, Chérubin, le Cameroun affronte l'Algérie.
Il faut dire qu'hier, l'Égypte a laminé le Zimbabwe 102 à 62, c'est ça?
Oui, c'est bien ça, oui. Et victoire également de l'Angola sur la RCA. Les fauves donc du Bazou Bangui qui ont perdu 62 à 61.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Dossier du jour, première escale, le Burkina Faso.
L'inéligibilité des partisans de Blaise Compaoré suscite bien des réactions. Le Conseil constitutionnel a en effet décidé d'empêcher 42 personnes de se présenter aux législatives du 11 octobre en raison de leur soutien au président déchu. Zoumana Wonogo a baladé son micro dans les rues de Ouagadougou.
Madame Sebogo, Marie-Line, pour moi le droit a été dit. Je pense que les partis concernés doivent prendre acte. Je pense qu'eux aussi n'ont qu'à se remettre en cause. En 2020, ils vont revenir.
Benao Batien, journaliste de Radio Rurale à la retraite. Il aurait été mieux de laisser tout le monde aller vers les électeurs et permettre aux électeurs de faire leur choix. Les gens ont énormément compris, les gens ont été formés. Donc, le choix doit revenir à ces gens. Moi, je crois que c'était la chose la plus simple. Ils vont dire, voilà, si j'étais parti, j'aurais gagné. Alors, s'ils partaient, ils allaient jouer.
Zongo Lucien, à Ouagadougou. Pour moi, concernant les résultats tant attendus, là, c'est d'hier, c'est rien à signaler. On n'attendait que ça. Pour être soulagé, un temps soit un peu. Rien à signaler parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé de mettre hors jeu certaines personne. C'est comme un match de football. Si ta licence n'est pas bonne, t'es out.
Je suis un citoyen du Burkina. Je m'appelle Tafsoba Idrissa. Ouais, on est content de cette décision du Conseil. Ça nous paraît très rassurant. On est content. Ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37 ne doivent pas normalement se présenter aux élections de 2015.
Souleymane Ilboudo de Ouagadougou. Vraiment, je suis content de la décision du Conseil conditionnel parce que ceux qui ont participé pour la modification de l'article 37. Sous Blaise Compaoré, on ne peut pas aller et laisser aller aux élections de 2015, pas tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui sont morts à cause d'eux. C'est-à-dire, en fait, c'est une collection. Ce n'est pas une exclusion, c'est une collection.
Monsieur Ramdé Sekou, je pense que la décision du Conseil constitutionnel est salutaire parce que cette décision-là rencontre l'assentiment de beaucoup de la population. Voilà. Et nous, nous nous retrouvons dans cette décision car le droit a été dit.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Côte d'Ivoire, en attendant la liste définitive des candidats pour la course à la présidentielle d'octobre 2015, ce sont 33 candidats, dont 3 femmes, à la date de clôture des dossiers que la Commission électorale indépendante a enregistrés. Amos Beonao, analyste politique et directeur général du nouveau quotidien Apparaître Tribune Ivoirienne, explique la floraison des candidatures.
Je pense que c'est un engouement avec beaucoup d'arrière-pensée politique. Nous voyons plusieurs types de candidats. Il y a un groupe de candidats qui jouent leur dernier va-tout parce que après 2015, l'âge ne leur permet plus de se présenter. Et puis il y a un autre groupe de candidats qui sont jeunes, mais qui prennent rendez-vous avec l'histoire pour se positionner dans les starting blocks en avance pour 2020. Donc moi, c'est comme ça que j'explique cette floraison de candidats. Donc il y a des candidats qui pensent que 2015 ou rien, et il y en a qui viennent pour se faire connaître, pour se faire voir, pour se positionner, pour prendre l'avance sur l'histoire.
Alors il y a une glose sur la composition de la CEI, la commission électorale, mais en dehors d'une fraction du FPI, tous les autres ténors ont fait acte de candidature. Comment expliquez-vous ces contradictions?
Oui, effectivement, c'est une contradiction entre la critique qui est faite à cette CEI, qu'on dit qu'elle est tout sauf indépendante pour prendre l'état d'esprit de l'expression d'un des leaders en l'occurrence Mamadou Coulibaly et la plupart des candidats. Donc en tant qu'observateur de la vie politique, moi j'observe que tout simplement que tous les partis sont représentés et sont candidats sauf l'autre faction, si je peux m'exprimer ainsi, l'autre tendance du Front Populaire Ivoirien représenté par le président Sangaré Abdramane. Cela veut dire que bon, il y a d'autres qui disent qu'ils sont candidats, ils continuent de discuter en étant à l'intérieur pour que les choses s'améliorent, mais on va inexorablement, déjà le 10, ils vont donner la liste définitive des candidats, et puis bon, après ça, la prochaine étape, c'est la campagne et puis les élections. Donc, on s'interroge toujours sur ces candidats-là qui continuent de critiquer, placés, qui sont toujours candidats. Ça veut dire toute la contradiction que nous connaissons habituellement dans le paysage politique ivoirien entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense réellement et puis ce qu'il y a lieu de faire.
Après le dépôt des candidatures, toutes les cartes sont jouées. Peut-on dire que le président Ouattara a toujours l'étoffe de favori qu'on lui prête ?
Bon, il y a toujours des surprises à une élection. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Quand bien même on peut reconnaître qu'il est favori parce que théoriquement il part avec le RHDP en bloc, avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire dont on dit qu'il a beaucoup de militants. S'il passe au premier tour, il y a plus de chances, mais au deuxième tour, ce serait beaucoup plus serré.
Amos Bionao, joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Le Cameroun abrite près de 300 000 réfugiés centrafricains qui fuient la guerre dans leur pays. Une centaine d'étudiants font partie des déplacés et dans le souci de chercher de l'argent pour poursuivre leurs études supérieures, trois d'entre eux ont mis sur pied un projet d'élevage et de jardinage, mais font face à l'opposition des autorités camerounaises qui les reversent dans les camps de réfugiés. Les détails avec notre correspondant à Yaoundé, Mokiedou Nkinzeka.
Valin Koum, ancien étudiant de l'université de Bangui, compte parmi les 2000 mototaximens qui exercent à Garoua-Boulaye et ses environs. Il fait partie d'un groupe de trois étudiants qui cherchent de l'argent pour pouvoir continuer leurs études au Cameroun. Après avoir fui les violences qui sévissent en Centrafrique, les pays d'origine, les chefs de groupe, Donald Abazen, est âgé de 19 ans.
Nous avons réfléchi que pour nous aider les étudiants à étudier cette année, il nous faut faire une activité génératrice de revenus. C'est comme ça que nous avons réfléchi à notre niveau de sort, de mettre en place un projet de poulailler. Dans ce projet, nous avons dit que nous, les étudiants, nous allons fabriquer les briques pour construire.
Les étudiants ont déjà en leur possession 15 poulets de chair achetés avec les économies inhérente à l'activité de mototaxi qu'il pratique. Donald affirme que son groupe a formulé une demande formelle d'aide auprès des ONG, entendez organisations non gouvernementales.
Nous allons maintenant soumettre le problème au IRD, parce que IRD, c'est aussi un partenaire. Il est là pour soutenir les activités génératrices de revenus.
En attendant que les requêtes portent des fruits, Donald, Valère et Bruno ont mis sous pied un jardin juste derrière leur case de fortune. Ils espèrent ainsi vendre les premiers légumes d'ici des mois. Question d'avoir le nécessaire pour poursuivre les études au Cameroun. Dolly Deba, responsable d'une ONG qui travaille pour les droits des réfugiés, demande à l'État camerounais de rester flexible face aux demandes des étudiants.
Vous et moi, nous savons pertinemment qu'en Centrafrique, il n'y a pas la paix en ce moment. Ça, c'est bien. Donc, ceux qui veulent rester, ils seront obligés de s'intégrer à la population camerounaise. Rien à faire, parce que cohabiter, c'est ça l'important.
Donald, Valet et Bruno nourrissent de nombreux projets. Dans cette perspective, ils rêvent un jour rentrer dans leur pays pour mettre fin à cette guerre qu'ils qualifient de guerre de la honte. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, qui fête ses 15 ans. Le Gabon accueille cette semaine le forum sur cette loi américaine qui encourage les exportations. Quels ont été les apports de l'AGOA? Comment les entreprises africaines peuvent en tirer davantage profit? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Dossier économie. Alors que les marchés financiers continuent de faire l'expérience d'une violente correction, pour reprendre le mot de certains économistes, la Chine, qui est à la base de la chute des cours en Asie, en Europe et aux États-Unis, a annoncé des mesures de relance. Malgré tout, les investisseurs semblent hésiter et certaines places sont clôturées en baisse ce mercredi. Mais par-delà les fluctuations du marché, quel pourrait être l'impact global d'un ralentissement économique en Chine? Aujourd'hui, nous considérons le cas de l'Afrique avec Pierre-Daniel Brecha. Il est le président de la Confédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises.
Il y a une agitation fébrile autour des bourses, de la chute des cours en Chine, etc., avec les répercussions sur les bourses européennes et tout. Bon, il faut dire que l'Afrique voit ça d'un œil un peu lointain et un peu plus serein pour différentes raisons. D'abord parce que nos bourses à nous, elles sont extrêmement petites, voire même ridicules par rapport aux bourses chinoises, européennes ou américaines. L'autre raison, c'est que on n'est pas du tout dans le même processus, dans la même tendance économique que la plupart de ces pays-là. Ces pays sont des pays qui sont déjà développés ou qui recherchent désespérément le maintien de leur croissance économique, alors que la plupart des pays africains, partant de chiffres extrêmement bas, sont actuellement dans des taux de croissance de 4, 5, 6, 7, voire 10, 11. En Europe, si on avait des taux de croissance équivalents à ceux de la Côte d'Ivoire, par exemple, tout le monde fêterait au champagne.
Quand on considère l'implication de la Chine dans les projets de développement et d'investissement sur le continent africain, est-ce que ce qui se passe en Chine, un éventuel ralentissement de l'économie, devrait nous concerner, nous autres en Afrique ?
Ça peut vous paraître un peu brutal, mais bon, honnêtement, on n'en a rien à faire, vraiment. Parce qu'ils nous vendent à bas prix. On a l'habitude de dire « chinois, c'est 6 mois, ça tient 6 mois, et encore quand ça tient 6 mois, on est très content ». Donc à l'extrême, bon, si la Chine chute, ça ne va pas vraiment avoir une implication sur le plan du commerce. Maintenant, l'implication de la Chine dans des projets, là aussi, il faut voir comment c'est fait. On vient de faire des routes, une autoroute Abidjan, Grand Bassam. C'est les Chinois qui ont pris le marché, ils ont financé ça avec une banque chinoise, avec du matériel chinois qu'ils ont importé de Chine, dirigé par des maîtres, des chefs de chantier chinois, voire des ouvriers chinois. La Chine n'apporte pas grand-chose et surtout pas un changement en profondeur de l'économie grâce à leur implication.
Il y a des gens qui peut-être ne seraient pas d'accord avec votre point de vue.
Mais chacun pense ce qu'ils veulent, mais ceux qui sont pas d'accord, évidemment, sont ceux qui touchent un certain montant de commission au passage et qu'ils aimeraient bien effectivement que certains marchés continuent à se faire.
Vous croyez donc que les milieux économiques en Afrique devraient rester sereins face à ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie mondiale?
C'est pas qu'ils devraient rester, c'est qu'ils vont le rester forcément.
Pierre-Daniel Brecha, il est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Je l'ai joint à Abidjan.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Et je voudrais dire merci également à notre ami Zorniak qui était à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui, chers amis. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com. On est ensemble 24 sur 24. Les nouvelles dans un instant.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.